OK, on va commencer notre 120e leçon dans notre série sur la théologie systématique. Ce soir, nous allons voir la doctrine du renoncement à soi-même. Alors, on a étudié jusqu'ici, et on le répète à chaque leçon parce que c'est important de le savoir, que l'adoration comporte deux facettes, l'intérieur et l'extérieur. On est encore à étudier l'adoration intérieure. Alors, on a vu que la piété, c'était comme la base essentielle de l'adoration intérieure, et qu'on pouvait la comparer à un arbre qui comportait de multiples branches. On a jusqu'ici étudié 12 branches de cet arbre qu'est la piété. On va continuer notre étude en examinant une 13e branche de l'arbre de la piété, qui est le renoncement à soi-même. En passant, il y en a 22 branches. Fait que là, on est encore. Alors, on voit que l'adoration, c'est quelque chose d'extrêmement large, qui comprend à peu près toutes les facettes possibles et imaginables de la vie de l'être humain. Alors, bien sûr, le renoncement à soi-même accompagne l'humilité. Ordinairement, là où l'on trouve l'un, on trouve l'autre. Matthieu 16, verset 24. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Le renoncement à soi-même est très certainement l'une des plus dures leçons à apprendre par les disciples à l'école de Christ. Personne ne peut être un authentique disciple sans l'avoir bien appris. Alors, le premier point qu'on va regarder aujourd'hui, c'est le renoncement à soi-même, sa nature. Qu'est-ce que c'est? Alors, comme l'habitude de Gill, il a vraiment sa structure dans la tête. Alors, il commence par dire ce que c'est pas. Alors, ce n'est pas nier ce que l'on est. Alors, le renoncement à soi-même, ça ne veut pas dire que je nie ce que je suis. Ce n'est pas non plus nier ou renoncer à ce que l'on a. On serait porté à penser que c'est ça, mais c'est pas ça. C'est pas renoncer à la richesse, c'est pas renoncer aux honneurs, c'est pas renoncer aux cadeaux ni aux talents. Ce n'est pas non plus refuser les faveurs conférées par la Providence. On peut citer quelques exemples dans l'Ancien Testament. Joseph, David et Daniel ont profité sur la terre de grandes richesses et de grands honneurs. Ce n'est pas non plus négliger de faire usage légitime des dons de Dieu sur la terre. 1 Timothée, chapitre 4, verset 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Ecclésiaste, chapitre 2, verset 24. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Ecclésiaste chapitre 5, verset 18 et chapitre 6, verset 2. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire, et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné. C'est là sa part. Puis 6.2, il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire, et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire, mais que Dieu ne laisse pas maître d'en jouir, car c'est un étranger qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave. On voit ça souvent, par exemple, des personnes qui ramassent des grosses fortunes, tombent malades, ne peuvent même pas s'occuper, ne peuvent même pas jouir de leur. Puis souvent, c'est la génération future qui s'en occupe. Ce n'est pas non plus la négligence de sa personne et de ses affaires, sa vie, sa santé, sa famille. Acte 27, versets 33 et 34. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. » Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Alors, on se souvient que c'est dans la fameuse tempête. Là. Il avait arrêté de manger, même si lui, il avait dit que Dieu les sauverait. Il était tellement sûr qu'il périrait, qu'il avait arrêté de manger. Et là, lui, il les reprend. 1 Timothée, chapitre 5, verset 23. Ici, c'est Paul qui parle à Timothée. Il dit, « Ne continue pas à boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille. Il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Donc, ce n'est pas négliger sa personne ou ses affaires ou sa famille. Ce n'est pas non plus de faire un usage excessif de son corps. Par exemple, les fameux jeûnes que les catholiques faisaient dans les couvents et dans les endroits pour les religieux, où, ben non, ils faisaient toutes sortes de formes d'automutilation en pensant que ça pouvait leur apporter quelques biens de la part du Seigneur. Éphésiens 5, verset 29, « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. » Colossiens 2, verset 23, « Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. » Mm. Lorsque le Seigneur est en train de nous dire que ces choses-là qui paraissent spirituelles, puis qui paraissent bien de l'extérieur, le Seigneur dit ça vaut zéro. Alors, maintenant qu'on a dit ce que c'était pas, peut-être on va maintenant dire ce que c'est. C'est quand même surprenant. Ça m'a fait du bien de reviser cette leçon-là parce que on voit ce que c'est le renoncement à soi-même. Alors, la définition, ça pourrait être la suivante. C'est l'abstention, la remise à plus tard de tous ses plaisirs, de tous ses profits, de toutes ses relations, de tous ses intérêts ou de tout ce que l'on trouve agréable qui peuvent entrer en concurrence avec l'amour du Christ et doivent être abandonnés à son commandement. Voyez-vous, c'est pas que le Seigneur nous dit de se débarrasser de toutes ces choses-là. C'est qu'il nous dit, si je te commande, faut que tu abandonnes tout ça. Alors, ça dit, tes profits, tes relations, tes intérêts, tout ce que l'on trouve agréable, qui peuvent entrer en concurrence avec son amour, il dit, si je te le commande, tu dois, c'est ça le renoncement à soi-même. Être capable de dire, oui Seigneur, tu me demandes de quitter ma famille, je vais le faire. Tu me demandes telle affaire, je vais le faire. Il te le demande pas nécessairement tout ça, mais il dit, si je te le demande, il faut que tu dises oui. Alors, ça va jusqu'à ta vie. Alors, quelle est l'étendue du renoncement à soi-même? D'abord, ça concerne l'âme, notre compréhension de la relation avec Dieu. Alors, acte 9, verset 6, on voit l'exemple de Paul ici à sa conversion. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Voyez-vous, avant, Paul prenait les initiatives, il s'en allait combattre les chrétiens, il les tuait, il les emprisonnait, il ne posait pas de questions au Seigneur avant. Là. Et vous, après on voit qu'après sa conversion, là il dit, tremblant, là, il a entendu la voix du Seigneur, puis il a vraiment saisi que c'était lui le maître. Alors on voit la différence dans son comportement. « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Alors il renonçait à lui-même. C'est pas que moi je veux faire ce que je pense qui est bon, c'est toi qu'est-ce que tu veux que je fasse. Et il obéit. Et ça comprend aussi notre volonté. Dans 1 Samuel 3, verset 18, on a l'exemple d'Élie qui accepte la décision de Dieu de faire mourir ses fils. Bien sûr, pour nous, c'est facile de lire ça dans les Écritures. Dieu dit, ses deux fils étaient des scélérats. Dieu dit, je vais les tuer. Puis nous, on lit ça, puis ça nous dit qu'il a bien accepté ça. Ça serait de nos enfants. Là, il faut se placer. C'est la seule façon de comprendre le texte, parce que si on ne fait pas ça, on ne comprend pas. Mais si nous, le Seigneur dirait, à cause que tes enfants sont méchants, j'ai décidé de les faire mourir, est-ce qu'on dirait que ta volonté soit faite? Ça se pose des questions. Alors, acte 1 Samuel 3, verset 18, Samuel lui raconta tout, sans lui rien cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Acte 21, verset 14. On sait que les disciples n'arrêtaient pas d'avertir Paul que s'il allait à Jérusalem, sa vie, c'était sa vie qui était en jeu. Et ça dit dans le verset 14, comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Alors, eux-mêmes, ils ne voulaient pas que Paul y aille. Paul lui-même savait qu'il fallait qu'il y aille. Mais tout le monde, à un moment donné, on dit que la volonté du Seigneur se fasse. Alors, c'est vraiment le renoncement à soi-même. C'est pas Paul reste ici, voyons, tu vas te faire tuer. Luc 22, versets 41 et 42. Alors, on a l'exemple suprême de Jésus devant la coupe qu'il devait boire. Bien sûr, ici, il ne parlait pas d'une coupe, d'une véritable coupe qu'il devait boire. Il parlait des souffrances qu'il se devait d'accepter pour notre rédemption. Et dans le verset 41, il dit, « Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Donc, ça comprend notre compréhension de la relation avec Dieu, ça comprend notre volonté, ça comprend aussi nos affections. Colossiens, chapitre 3, verset 5, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. » Un Jean, parlant de ça, je connais un chrétien qui était... ses finances allaient très, 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 très bien. Il était rendu qu'il investissait dans des gros blocs appartements. Et le Seigneur a permis qu'il perde tout. Il s'est fait complètement laver financièrement. Alors, on est tous guettés par ça, la cupidité. Tous les êtres humains sont cupides de nature.
Cupide, qu'est-ce que ça veut dire?
Cupide, ça veut dire attaché au bien de la terre, et plus t'en as, plus t'en veux. 1 Jean, chapitre 2, versets 15 et 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Matthieu 10, versets 37 et 39. Celui-là, c'est un verset que des fois on lit, mais je ne suis pas sûr qu'on le médite vraiment ce qu'il veut dire. Celui qui aime son Père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc on a toutes les choses qui sont le renoncement à soi-même qui touchent l'âme, on a aussi les choses qui touchent le renoncement à soi-même touchant le corps. Donc, c'est vraiment la question de du retrait du service du péché. On sait que les Écritures nous apprennent qu'on est au service du péché et que se retirer graduellement, c'est l'œuvre de Dieu dans nos vies. Romains 6, versets 12 et 13. « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Oui, les Écritures nous disent de nous considérer comme de quoi on est mort avec Christ, puis maintenant on est vivant, puis qu'on se doit de lui donner tout notre corps puis tous nos membres pour son service comme instrument de justice. Romains 8, verset 13. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » On se souvient que c'est le verset qui était le verset d'introduction à notre série sur la mortification du péché. Romains 13, verset 14. « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Donc, concernant le corps, c'est le retrait du service du péché par le corps. Et aussi, c'est la non-recherche des honneurs de l'homme, des hommes. Acte 7, verset 22-23. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. On sait qu'il était obligé de se pousser. Dans Hébreux 11, verset 24 à 26, ça nous dit que vraiment c'est un renoncement à soi-même qu'il a fait. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Imaginez-vous, à l'époque, être fils de la fille du pharaon, c'était comme aujourd'hui, si tu serais, disons, dans la maison de dans la Maison Blanche. Puis tu renonces à ça, puis tu sais que tu t'en vas vivre dans la misère. Et il préférait ça en ayant les yeux fixés sur Christ, qui considérait ça comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Aussi, pour le corps, c'est lorsque des profits et des revenus sont sacrifiés pour l'amour de Christ. Matthieu 4, versets 20 à 22. Alors, on se souvient ici, dans le contexte, c'est les apôtres qui laissent leur métier, laissent leur bateau, laissent leur pêche pour suivre Jésus. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparait leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Matthieu 9, verset 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des payages, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Imaginez-vous, à l'époque, c'était un collecteur d'impôts. Alors, on sait bien que les collecteurs d'impôts, ils en ramassaient pour les Romains, mais ils se soignaient en passant. Alors, c'était des gens qui vivaient à l'époque très bien. Ils voient le Seigneur lui dit, « Suis-moi. » Il lâche tout, puis il suit. Il faut que ça soit fort. Hein? Mm. Matthieu 19, verset 27, « Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté. » Et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Aussi, pour notre corps, c'est lorsqu'on est appelé à quitter sa patrie pour le service de Dieu. On a l'exemple, par exemple, de tous les missionnaires qui, au cours de toutes les époques, ont été appelés. On a des exemples. Je suis en train de lire un livre, là, puis on voit qu'il y a des personnes qui sont prêtes à aller dans des pays, dans des conditions épouvantables, quand on regarde ça avec nos yeux modernes, et qui ont fait ça pour l'amour de Christ. Alors, c'est vraiment, tu quittes ta patrie, tu t'en vas t'expatrier vraiment loin dans des conditions, des fois, déplorables. Et on a les exemples des missionnaires, et on a aussi l'exemple d'Abraham. Luc 14, versets 26 et 27. « Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. C'est des versets un petit peu difficiles. Parce que souvent, les personnes lisent ça et disent, voyons donc, le Seigneur me demande d'haïr. Il ne demande pas d'haïr. Il nous demande qu'on aime tellement sa personne à lui que toute autre forme d'amour, si on la compare, ça ressemble à de la haine. Alors, et il nous dit d'aller plus loin que ça. Donner notre vie. Alors, le Seigneur, il demande beaucoup. Il dit, si tu fais pas ça, tu peux pas être mon disciple. Il faut être prêt à donner même notre propre vie. Alors ça, c'est des paroles qui sont dures, on peut dire. Lorsqu'on sacrifie sa santé et sa propre vie. Quand on regarde la quantité de personnes qui sont allées sur les champs missionnaires ou qui se sont littéralement brûlées au travail, on pourrait en donner une très, très longue liste. Paul, par exemple. Épaphrodite, dont Paul lui-même dit qu'il s'est rendu malade par le Barnabas également. Matthieu 16, versets 24 et 25. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » C'est aussi pour le corps l'abandon de sa nature pécheresse par la mortification du péché par l'esprit. Comme on l'a lu tout à l'heure dans Romains 8, 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Alors, c'est vraiment vouloir faire mourir les désirs et les pensées intérieures, les péchés du cœur et des lèvres. C'est un très dur combat parce que le péché nous enveloppe facilement, nous attire et nous promet des avantages si efficacement. Toutes les mesures doivent être prises pour le détester et l'avoir en horreur. Notre repentance doit être vraie, sincère, pratique et impitoyable. Elle doit être pratiquée quotidiennement et avec beaucoup de prières. Tout doit être fait pour s'en éloigner catégoriquement et systématiquement. Nous devons éviter la fraternité coupable avec des pécheurs. C'est aussi l'abandon de notre justice propre, bien entendu. Philippiens, chapitre 3, versets 6 à 9. Quant au zèle, Paul parle de lui-même, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Alors vraiment, une personne ne peut pas être chrétien et penser qu'il va gagner son ciel par ses bonnes actions. La justice propre, c'est ça. Alors c'est vraiment la justice de Christ, comme on le dit souvent dans les prédications le dimanche matin. Deuxième point qu'on va regarder, le renoncement à soi-même, son exercice. Alors, il est requis de tous les disciples. On ne peut pas dire que c'est juste les disciples que ça lui tente. Le Seigneur le demande pour tous. Luc 14, versets 26 à 30. « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu l'achever. » Aujourd'hui, il faut présenter l'Évangile tel qu'elle est. L'Évangile est gratuit, mais la vie chrétienne est coûteuse. Aujourd'hui, à cause de la manière dont l'Évangile est apporté, on te dit, si tu deviens chrétien, tu seras plus malade, l'Évangile de la prospérité, tu donnes 10$, il t'en revient 100. C'est, dans le fond, c'est pas présenter l'Évangile correctement où tu seras pas malade, où tu vas prier, la maladie sera pas présente dans ta vie. Le Seigneur nous dit qu'on n'aura pas un meilleur traitement que lui. Quand il est venu, il était rejeté, il était haï, il était bafoué et tout ce qu'on peut imaginer. Et il nous dit qu'on va connaître exactement le même sort. Et quand on annonce ce type d'évangile-là, quelqu'un, dans le fond, c'est un faux évangile. Faut annoncer les choses telles quelles. Le salut est gratuit, mais la vie chrétienne est coûteuse. Aussi, le renoncement à soi-même, son exercice, le Maître lui-même, Jésus-Christ, nous a donné l'exemple. Philippiens 2, versets 5 à 8. « Ayez en vous les sentiments qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Donc, le Seigneur Jésus nous a donné l'exemple. Les saints de toutes les époques nous ont donné l'exemple et le beau chapitre de Hébreux 11 nous en donne de beaux exemples. Hébreux 11, versets 35 à 37. « Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes, et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là vêtus de peau des brebis et de peau des chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités. » Quelqu'un va avoir un exemple de ça, là, c'est quand les protestants ont été jetés dehors, l'édit de Nantes était cancellé, et les chrétiens français se sont presque tous aller en Angleterre. Ça a eu une conséquence énorme au point de vue économique sur la France, parce que c'était tous des travailleurs exemplaires, des artisans. Mais durant tout leur voyage qu'ils ont pris, parce qu'ils ont été obligés de tout abandonner, là, parce qu'ils rentraient dans leur maison, ils violaient les femmes, c'était épouvantable ce qu'ils faisaient. Là. Alors les chrétiens sont sortis, puis se sont en allés, ils ont pris les moyens du bord, ils se sont débrouillés, mais beaucoup d'entre eux se sont ramassés en Angleterre. Mais durant cette époque-là, quand ça dit, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, c'est vraiment ça qui se passait. Alors c'est sûr qu'un chrétien qui vivait à cette époque-là pouvait dire, « Seigneur, tu nous as-tu oublié? On vivait correctement et tu permets qu'on... » C'était dans le plan de Dieu et il fallait que les gens, les chrétiens, gardent les yeux fixés sur Christ parce que sans ça, le découragement pouvait les prendre facilement. Et ça, c'est un exemple. Il y en a des milliers d'exemples dans toute l'histoire de l'Église d'affaires semblables. Alors, Hébreux 11, ça nous dit que pour leur foi, il y a beaucoup de chrétiens qui ont connu des expériences extrêmement difficiles, extrêmement douloureuses. Moi, la seule explication que je peux donner à ça, c'est que quand Dieu permet que des choses pareilles arrivent, il nous donne en même temps la grâce pour passer à travers. C'est pas explicable autrement. Nous pourrions citer une multitude de saints de l'Ancien et du Nouveau Testament. Abraham, Joseph. Joseph, il a eu la vie dure, à un moment donné. Et c'est vrai qu'il a bien fini, mais il y a eu un temps que c'était dur dans sa vie. Moïse, également. Mando, tu pars des châteaux d'Égypte, puis tu te ramasses gardien de brebis. Ça fait un petit changement de train de vie. Josué, Paul, les apôtres. On sait que la plupart des apôtres, selon la tradition, sont tous morts, soit crucifiés ou soit de morts extrêmement violentes. Alors, on pourrait se dire, c'était les choisis de Dieu. Le Seigneur a quand même permis qu'ils meurent de cette façon-là. Nous pourrions également examiner les biographies d'une multitude de missionnaires et de serviteurs de Dieu au cours de toute l'histoire de l'Église dans laquelle ces choses-là se sont multipliées. Aussi, celui qui ne se renie pas lui-même s'érige à la place de Dieu. Il est coupable d'idolâtrie. Romains 14, versets 7 et 8. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 et 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Maintenant qu'il y a des conséquences de la pratique ou de la non-pratique de du renoncement à soi-même, Hébreux 10, verset 34, « En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. » Ça, tout au cours de l'histoire de l'Église, c'est en Angleterre, en France, tout partout en Europe. Quand il venait des persécutions, une des premières choses qu'il faisait, c'était s'approprier des biens, mettait ça à l'État, puis il redistribuait ça à leurs principaux serviteurs. Alors, imaginez-vous les hommes qui sont déjà méchants d'avance, quand ils savent qu'ils vont agir pour s'approprier des biens des autres. Mon Dieu, ils deviennent voraces, sans bon sens. Hébreux 11, versets 24 à 27. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité que le peuple de Dieu, que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Matthieu 16, versets 25 et 26. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Quelles sont les applications qu'on peut faire à partir de cette brève étude? La première, prions le Seigneur de nous enseigner la signification et la portée du réel renoncement à soi-même. Deuxième application, demandons la grâce de le pratiquer et de recevoir la force nécessaire pour y arriver. Troisièmement, gardons à l'esprit que le renoncement à soi-même n'est pas une option, mais une absolue nécessité commandée par le Seigneur lui-même. Engageons-nous donc résolument et joyeusement sur la voie royale, celle de Christ, par sa grâce et pour sa gloire. Amen.